France Musique. Comme si vous y étiez, Jérémy Rousseau, France Musique.
Ravi Shankar saute dans le Gange, c'est comme si vous y étiez. Et plouf, il a sauté, riant, criant, éclaboussant ses copains. Il a batifolé dans l'eau, et puis il est sorti, et puis il est remonté sur les gâtes, ces gigantesques berges recouvertes de marches en pierre qui longent le fleuve. Et puis il a ressauté, et encore une fois, et encore une fois. C'est tellement amusant. Comme tous les matins et tous les soirs, avant ou après l'école, Robendra Shankar s'amuse à sauter dans le Gange comme des milliers d'enfants. Posée sur la rive gauche du Gange, Bénarès n'est pas une ville comme les autres. Outre le fait que Robendra Shankar y est né, elle est la capitale spirituelle de l'Inde, la ville du dieu Shiva. Car c'est Shiva qui tient la source du Gange dans ses cheveux. C'est pourquoi les bords du fleuve, ces fameux ghâts, sont un lieu grouillant de vie. Des millions d'hindous s'y rendent chaque année en pèlerinage pour s'y purifier, ou pour y mourir, quand ils ne viennent pas tout simplement faire leur toilette, jouer ou laver leurs vaches. Pendant qu'à côté d'eux, imperturbables, les fidèles prient et se baignent religieusement, l'eau du Gange possédant la vertu de purifier les corps et de libérer l'âme des défunts. Bénarès est réputée aussi pour ses ghâts funéraires où l'on pratique les crémations, car la dispersion des cendres dans le Gange permet d'atteindre plus tôt la délivrance de ce monde. C'est là, à Bénarès, la ville la plus sacrée de l'Inde, que Robendra Shankar, alias Rabu Shankar, puis Ravi Shankar, compositeur et joueur de sitar, le plus fameux musicien indien du XXe siècle, voit le jour le 7 avril 1920, bien qu'une partie de sa famille soit originaire du Bengale. Rien n'émerveille plus le petit Ravi Shankar que l'atmosphère si particulière des ghâts, hantée par la musique spirituelle et entêtante du Chennai, le hautbois indien, par les prières chantées en sanskrit, par les cycles de vie et de mort qui scandent la journée, par les pièces de la mythologie hindoue jouées là, sous ses yeux. C'est déjà le monde entier qu'il observe devant lui. En 1920, Bénarès est pourtant loin des 3 millions d'habitants qu'elle compte aujourd'hui. Mais elle est située dans le nord-est de l'Inde et fait partie intégrante de l'Empire britannique des Indes. Son père, un homme de lettres très cultivé, est avocat et diplomate à Calcutta, puis à Londres, où il se mariera avec une lady anglaise. Robendra Ravi est élevé par sa mère dans des conditions difficiles, coupé de son père, dont il ne fera connaissance qu'à l'âge de 8 ans, ainsi que du monde lointain dans lequel vit ce père inconnu, l'Angleterre. De ses quatre frères, Uday, dit Dada, est celui qui impressionne le plus Ravi Shankar. Plus âgé de 20 ans, il est déjà danseur et chorégraphe professionnel et il a même étudié la peinture au Royal College of Arts de Londres. Uday Shankar est une star de la danse qui déjà parcourt l'Europe. Il s'est produit au Covent Garden de Londres et il a même dansé avec Anna Pavlova. Quel modèle que ce grand frère! Et quelle chance aussi, car en 1930, à l'occasion d'une tournée avec la troupe qu'ils ont formée, le père et le grand frère décident d'emmener la famille Shankar en Europe. Leur but ? Faire découvrir à l'Occident la musique et la danse indienne. La famille quitte Bombay en 1930 à destination de l'Italie, puis de Paris. Ravi Shankar n'a qu'une dizaine d'années. Il pratique encore peu la musique, apprise à la va-vite. Mais il se produit comme danseur dans la troupe de son frère. Sur scène, il incarne le dieu Krishna, enfant. Le 3 mars 1931, la compagnie se produit au théâtre des Champs-Élysées. Les Parisiens sont émerveillés. Pendant 2 ans, Ravi Shankar apprend le français à l'école et se passionne pour la culture française. À 12 ans, il vit presque comme un adulte dans le monde de la nuit parisienne, devient familier des mondanités et de l'univers du spectacle. Il y croise Stravinsky, Toscanini, Pablo Casals, Cole Porter. À Paris, c'est décidément la grande vie. Les hôtels et les appartements parisiens contrastent furieusement avec les gâtes de la pieuse Bénarès. Et quand il entre dans l'adolescence, quel monde il a déjà parcouru. La troupe Shankar se déplace avec plus de 150 instruments de musique classique et folklorique et des dizaines de mâles regorgeant de costumes confectionnés dans le style des peintures et des sculptures indiennes anciennes. Dada, le grand frère, est ovationné partout. C'est la star de la troupe. Avec lui, Ravi Shankar découvre l'Europe et même New York. Le succès de son frère l'éblouit. Les filles étaient dingues de Dada et tous les garçons voulaient lui ressembler. Il a été la première vraie superstar de l'Inde, un dieu vivant. Au gré d'une nouvelle tournée, durant laquelle il est promu danseur soliste de la compagnie et donne ses premières chorégraphies, Ravi Shankar rencontre un musicien exceptionnel, Alauddin Khan. Créateur de nombreux ragas, Alauddin Khan est un pédagogue réputé et un virtuose hors du commun, capable de jouer de différents instruments. Plus qu'un maître, c'est un gourou, et face à lui, malgré ses beaux vêtements brodés, le jeune Ravi Shankar se sent tout petit. « Tu es comme un papillon », lui lance Alauddin Khan. « Cette vie que tu mènes n'est pas le chemin. Tu seras un touche-à-tout, mais tu ne maîtriseras rien. » Quel choc! En 1936, Dada décide de dissoudre définitivement la troupe. C'est le retour en Inde.
আমার চোখের পানি নদীর জলে চোখের পানি নদীর জলে যাইতাছে মিশিয়া পাটিয়াল গাঙ্গের নাইয়া।
Ravi Shankar n'a alors plus qu'une seule idée en tête: devenir l'élève d'Alauddin Khan. Il ne sait pas encore que le plus dur ne fait que commencer. Fini la vie de petit dandy. Fini les palaces internationaux et les clubs sélects. Pour Ravi Shankar, qui a maintenant 17 ans, le retour en Inde signifie retour aux sources, loin du strass et des paillettes. Ici va se jouer toute sa vie. Ici naîtra son incomparable rayonnement. Sa décision est radicale. Ravi Shankar se rase la tête, enfile les vêtements les plus simples et va rejoindre Alauddin Khan chez lui, à Mayar. 7 années de travail à ses côtés, qui débutent déjà par le choix de l'instrument. Lequel choisir au fait? Le sarod, comme son maître? La vina? Le sarangi. Non, ce sera le sitar, définitivement. Le sitar, luth à manche long à cordes pincées, compte 4 cordes de jeu, 13 cordes sympathiques et 3 cordes de bourdon rythmique. C'est l'un des symboles de la musique hindoustanie. Et Ravi Shankar va le populariser dans le monde entier. Aux côtés d'Alauddin Khan, la discipline est drastique. Tout en l'initiant à différents instruments, le vieux maître lui enseigne une technique de fer, jusqu'à 18 heures de sitar par jour, d'apprentissage et de mémorisation des ragas, car tout se fait par tradition orale dans la musique classique indienne. Si Ravi Shankar est naturellement doué pour la musique, il tire peu à peu de cet enseignement une virtuosité et une liberté d'improvisation et d'imagination prodigieuse. Alauddin Khan lui apprend aussi à contrôler son caractère sauvage et indomptable. Une relation étonnante se développe entre eux, car un gourou, c'est à la fois un enseignant, un conseiller spirituel, un père, un modèle, une idole pour l'élève. Il me donna le type d'amour que je n'avais jamais reçu de mon propre père. Après ces 7 années d'études, Ravi Shankar est prêt. Prêt à aller seul au-devant du monde. Même si, dit-il, dans notre domaine, nous n'affirmons jamais que nous avons fini d'apprendre, car le processus d'apprentissage auprès d'un gourou ne peut jamais s'achever. Il se lance pourtant. Sans jamais perdre contact avec son gourou, il s'installe à Bombay. Gagne sa vie grâce au sitar, voyage en train, à pied parfois, pour aller jusque dans les demeures et les salons privés qui le réclament, car il joue sans cesse et commence même à enseigner. À la fin des années 40, Ravi Shankar devient directeur de la musique, compositeur et chef d'orchestre au sein de All India Radio. Avec son orchestre de chambre, Vadia Vrinda, il met en pratique ce qui va fonder sa grande popularité, composer de la musique indienne, tout en y incorporant des idées, des formes et parfois des instruments issus de la musique classique occidentale. Grâce à sa connaissance de l'anglais et du français, il explique les différences entre la musique classique occidentale et la musique classique indienne, jusque dans les ambassades. À tous ceux qui n'ont pas la moindre affinité avec la musique indienne, Il montre ce qu'est un raga, l'humeur, la couleur, le cadre mélodique du morceau qu'il joue. Tandis que le tala, dit-il, est l'indispensable cycle rythmique. Et puis, il joue avec ses musiciens, dont le fidèle Ala Raka au tabla. Et la magie opère. Bouche à oreille se répand. Le Premier ministre Nehru l'envoie en URSS dans le cadre d'une délégation culturelle. Via les réseaux diplomatiques, Ravi Shankar s'impose d'abord auprès de quelques initiés avant d'être invité à l'étranger. Lorsque Yehudi Menuhin se rend en Inde en 1952, il déclare « Entendre Ravi Shankar, c'était comme découvrir tout un monde nouveau. Christophe Colomb, lorsqu'il a découvert l'Amérique, n'a pas dû être plus ému. En 1956, Ravi Shankar revient se produire en Europe et aux États-Unis, devant des curieux d'abord, des amateurs de jazz surtout. Puis, son public s'élargit, happé par son style, sa virtuosité, sa créativité, son rayonnement, sa capacité à émouvoir les foules. En 1966, sa rencontre avec George Harrison, le plus jeune des Beatles, va encore augmenter son influence. C'est à son tour de devenir gourou. Prenant sous son aile George Harrison, Oncle George, comme on dit dans la famille Shankar, Ravi lui enseigne le sitar et fait ainsi découvrir aux millions de fans des Beatles, c'est-à-dire au monde entier, les sonorités de son pays. Mais attention, prévient-il, dans la musique indienne, il est question d'autre chose que d'exciter les sens des auditeurs à force de virtuosité et d'effets tapageurs. Mon but et d'emmener le public avec moi très loin, comme dans la méditation, de faire venir les larmes et de se sentir totalement paisible et purifié. En 1967, au festival de Monterey, apogée du mouvement hippie, Ravi Shankar est la voix, l'apôtre de la musique indienne dans le monde. Deux ans plus tard, c'est le festival de Woodstock. Mais là, l'expérience le déprime, le dégoûte. La drogue, les viols, l'ambiance violente qui plane lui rendent l'expérience terrifiante. Thank you. Ravi Shankar jouit d'un statut de rockstar, mais doit lutter pour conserver son intégrité culturelle. Revers de la médaille, il est critiqué dans son propre pays, où on l'accuse de se vendre. Avec ses musiciens, il est reçu à la Maison Blanche en 1974. Il se produit avec Eric Clapton, Bob Dylan, Billy Preston. Il donne des conseils à John Coltrane, lequel, tellement impressionné, nomme son fils Ravi. Le cinéma continue par ailleurs à l'attirer. Il a déjà composé pour le grand Satyajit Ray dans les années 50 et il se voit nominé en 1983 aux Oscars pour la musique de film Gandhi de Richard Attenborough. Et cela, tout en poursuivant ses collaborations avec les musiciens classiques Menuhin, Rampal, Rostropovitch, Previn. En 1981, il crée son deuxième concerto pour sitar, intitulé Raga Mala, guirlande de raga, avec le New York Philharmonic et Zubin Mehta. Puis, avec le compositeur américain Philip Glass, c'est la sortie en 1990 de l'album Passages. Des années 80 aux années 2000, Ravi Shankar conserve son statut immaculé de star de la musique indienne. Ses rencontres ont depuis longtemps donné des idées à une jeune génération de virtuoses, Hari Prasad Chaurasia, Zakir Hussain, tout comme à ses propres enfants. Anushka Shankar joue du sitar et cultive l'héritage paternel. Son neveu, Ananda Shankar, métisse la musique indienne de pop électro, tandis que son autre fille, Nora Jones, née d'une de ses nombreuses liaisons, a préféré, elle, le jazz et la pop. Prophète de la musique indienne, s'éteint le 11 décembre 2012, à l'âge de 92 ans, à San Diego, berceau américain du clan Shankar. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, comme dans les années 20, et comme il y a des siècles et des siècles, des enfants continuent de sauter dans le Gange, riant et s'éclaboussant. C'était Ravi Shankar saute dans le Gange, réalisation de Géraldine Prutner, avec Michel Mestre, Bruno Mourlan et Véronique Kerdiles. France.
France Musique.
France Musique.
Vous allez l'adorer.
Comme si vous y étiez, Jérémy Rousseau, France Musique.
Le voyage se poursuit avec Ravi Shankar, en compagnie de Philippe Glass, de Zubin Mehta et de quelques fidèles de la première heure.
Thank you.
France Musique.
France Musique.
Vous allez là, do, ré.
Comme si vous y étiez, Jérémy Rousseau, France Musique.
Nous avons entendu de et par Ravi Shankar des extraits du deuxième concerto pour sitar et Offering pour deux saxophones, sans oublier à la fin le raga Manpassand. Tous les détails sont à retrouver sur francemusique.fr où vous pouvez également réécouter et podcaster ces émissions. Comme si vous y étiez, avec la collaboration de Massimo Bellini, Valérie Lavalard et Margot Muller, vous donne rendez-vous samedi prochain à 17h avec au programme « Pergolèse meurt mystérieusement ».
À réécouter sur francemusique.fr.